Pour la rentrée, j'ai décidé de vous donner à entendre l'un des meilleurs connaisseurs de l'enfance dans ce pays, Boris Cyrulnik. Bonjour. Vous êtes neuropsychiatre, vous avez publié de nombreux ouvrages sur la psychologie de l'enfant et vous en publiez un qui est un ouvrage collectif « Préparer les petits à la maternelle » chez Odile Jacob. Et puisque de nombreux auditeurs sont en train de préparer leurs enfants pour la maternelle, quels conseils leur donner? Que faut-il pour qu'un enfant apprenne bien à l'école lorsqu'il débute l'école? Tout d'abord, Boris Cyrulnik.
Eh bien, il faut commencer très tôt, c'est-à-dire qu'il faut commencer chez l'enfant préverbal. Un petit, il faut d'abord lui donner confiance en lui et il a un élan vers les autres, il sourit, il babille, il y a un tour de parole, alors qu'il ne sait pas parler, il y a déjà un tour de parole. Ça, c'est très dès les premiers mois, parce qu'il est sécurisé par un entourage stable. Ensuite, quand la parole arrive et que le jour de l'entrée dans l'école arrive, il faut familiariser l'école, et il faut lui dire, tu vas rencontrer des copains, on va t'accompagner. Il y a donc tout un processus verbal de préparation à la rentrée, et deux enfants sur trois entrent le premier jour d'école à la maternelle en souriant, avec un petit stress, comme pour une belle aventure.
Et si ces enfants sont trop stressés, si leurs parents aussi, ce qui arrive, Boris Cyrulnik, sont trop stressés, que faire ?
Alors le stress commence très tôt là encore, même raisonnement, c'est-à-dire qu'un enfant sur trois vit dans des conditions difficiles parce que ses parents sont malheureux, parce que ses parents sont en conflit, parce qu'il y a eu une tragédie familiale, et un enfant sur trois n'acquiert pas la confiance en lui. Si bien que quand arrive le premier jour d'école, il a peur de l'école. Et ça va fournir la population des futurs enfants qui auront des phobies scolaires, qui sait. Et cette population-là s'accroît très rapidement. Et on voit qu'il y a des cultures, comme par exemple les Asiatiques, qui surinvestissent tellement l'école que beaucoup d'enfants sont terriblement anxieux à l'idée d'aller à l'école, alors que, comme vous le disiez tout à l'heure, la Suède, la Finlande, les pays d'Europe du Nord, au contraire, sécurisent les enfants, et les enfants, la plupart des enfants, éprouvent l'école comme un jeu, comme une exploration amusante.
Mais on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, la phobie scolaire, en tout cas le surinvestissement scolaire et la manière dont beaucoup de parents vivent les études de leurs enfants. Ça, c'est véritablement quelque chose de très récent, Boris Cyrulnik.
Mais oui, quand j'étais enfant, 3% d'enfants allaient au lycée. La plupart des enfants allaient jusqu'au certificat d'études, c'est-à-dire 12 ans à peu près. Et on nous demandait d'apprendre à lire, écrire, compter. L'école n'avait pas ce surinvestissement social qu'elle a aujourd'hui, parce que aujourd'hui, la nouvelle hiérarchie sociale se fait par l'école. Alors qu'avant, on apprenait à lire, écrire, compter, et hop, les garçons à la mine, les filles à la maison, mais parfois aussi les filles à l'usine ou au champ. Donc ça veut dire que l'enjeu de l'école, en deux générations, a complètement changé. Aujourd'hui, c'est l'école qui fait les nouvelles classes sociales.
Et cela, donc, c'est quelque chose qui produit un certain nombre d'effets en termes d'anxiété. Est-ce que cette anxiété, elle n'est pas aussi bonne? Parce qu'après tout, on peut se dire que le stress est une bonne chose, qu'il peut apprendre à apprendre. Est-ce que c'est vrai, selon vous, Boris Cyrulnik?
Oui, mais comme vous venez de le faire, il faut distinguer le stress et l'anxiété. Le stress, c'est-à-dire une petite angoisse stimulante, j'ai peur d'aller à l'école, mais ça m'amuse quand même, donc je vais aller à l'école, ça c'est le stress qui est un éveil cérébral et un éveil relationnel. Donc un petit stress fait partie de la vie quotidienne, et les enfants sans stress s'engourdissent et obtiennent de mauvais résultats. Mais trop de stress sidère le cerveau et enlève le plaisir d'apprendre parce que on a peur de l'école, et dans ce cas-là, notre culture est en train d'évoluer en surinvestissement tellement l'école que les enfants ont peur de l'école.
Il y a un lien, en tout cas, selon vous, Boris Cyrulnik, entre les émotions de l'enfant, peut-être aussi celles de ses parents, et l'apprentissage.
Oui, on sait maintenant que l'intelligence démarre dans l'affectivité. C'est pas une qualité cérébrale. L'intelligence, c'est une qualité relationnelle. Alors bien sûr, si le cerveau est abîmé, on apprend mal. Mais pratiquement tous les enfants ont un cerveau qui n'est pas abîmé. Or, certains cerveaux donnent l'impulsion du plaisir d'apprendre et d'autres, au contraire, s'inhibent, se bloque, se gèle, fonctionne moins sous l'effet de l'angoisse. Donc c'est tout à fait important de voir que c'est l'affectivité, le tranquillisant naturel, c'est l'affectivité. Et quand un enfant est sécurisé par l'affection qui l'entoure, il va éprouver le premier jour d'école comme un stress, mais un stress amusant.
Mais ça veut dire que la représentation commune, par exemple, de ces intelligences froides est une représentation fausse, ça n'existe pas. Une intelligence froide, c'est-à-dire des gens dénués d'affect, qui seraient en revanche capables de grandes prouesses intellectuelles, Boris Cyrulnik.
C'est ce qu'on nous apprenait il y a quelques générations, c'est étonnamment faux. C'est-à-dire qu'il n'y a d'intelligence que si elle est éveillée. Et pour que l'intelligence soit éveillée, il faut qu'il y ait des émotions et une relation. Si le fait de parler avec vous m'amuse, je vais faire un effort, je vais éprouver du plaisir. Si au contraire votre présence m'inhibe, je vais me contraindre et mes performances intellectuelles vont être diminuées. C'est-à-dire c'est notre relation, vous, qui va diminuer mes performance intellectuelle.
Bon, je vais pas essayer de vous faire rire, je vais essayer de vous émouvoir. En tout cas, si on pense par exemple à ces enfants qui sont peut-être en train de pleurer, puisqu'il est 7h48, on est en train de les habiller, ils vont aller à l'école pour la première fois, le fait d'avoir un enfant trop sensible, est-ce que c'est justement un obstacle pour l'apprentissage, Boris Cyrulnik ?
Oui, puisque ces enfants trop sensibles ont facilement peur, donc ils évitent. Au lieu d'aller à la rencontre du professeur, à la rencontre des copains, à la rencontre des idées, ils évitent, ils se replient sur eux-mêmes et souvent ces enfants-là ou bien pleurent, appellent au secours, ou bien sont anormalement sages. On dit, oh, cet enfant-là, il est sage, c'est pas la peine de s'en occuper, c'est un piège. Un enfant trop sage, c'est un enfant qui s'isole. Alors il ne s'agit pas d'être une petite brute, hein, mais il faut se méfier des enfants trop sages qui se mettent dans un coin. Les enfants qu'on appelle évitants, ils évitent toute relation, ils évitent le contact du regard, ils se mettent, quand ils rentrent dans une classe, ils se mettent le long des murs, ils évitent de parler, ils se mettent eux-mêmes en disposition spatiale de mal apprendre à parler parce qu'ils sont trop émotifs.
Et alors, face à ces enfants, que faire ?
Apprivoiser. C'est-à-dire que c'est la familiarité qui est tranquillisante. Et pour ça, il faut parler de l'école avant d'y aller. Puis il y a tout un processus. On parle de l'école. Tu te rappelles, ta petite cousine, elle va à l'école, elle est contente, elle a rencontré Nadine, ça l'amuse. Donc on parle de l'école pour la familiariser. On va visiter l'école et à l'école, il y a un enseignant, quelqu'un, un adulte étranger, donc inquiétant, qui accueille. Les parents parlent avec cet étranger, c'est souvent une ATSEM. C'est une dame qui, c'est souvent, ce milieu-là est un milieu de femmes, hein, c'est une dame qui souvent n'est pas professeure des écoles, mais qui accueille les enfants et qui a beaucoup de connaissances sur l'accueil des enfants. Et cette femme-là parle avec les parents, l'enfant voit que les parents parlent à cette dame, expliquent, et cette dame, progressivement, elle est familiarisée. Et c'est elle qui va jouer un rôle sécurisant pour l'enfant avant l'arrivée du professeur.
Sécuriser, vous insistez beaucoup là-dessus et pourtant on a tous l'impression que la société est de moins en moins sécurisante, Boris Cyrulnik.
Mais oui, et c'est exactement ça. Dans les pays d'Europe du Nord, tout est fait pour sécuriser les petits. Avant l'école, l'entrée à l'école et les notations sont retardées. Quand j'ai travaillé en Finlande ou en Suède ou au Danemark, j'ai été stupéfait de voir que dans ces écoles, il n'y a pas un cri, que des sourires. Tu sais pas ça aujourd'hui, c'est pas grave, tu le sauras demain. Connaissance acquise ou connaissance pas encore acquise. Mais ça fait rien. Tu vas jouer, tu vas rencontrer. Il y a des cours de cuisine, il y a des cours de dessin, il y a des contes mimés, il y a de la musique, il y a du sport. Et petit à petit, l'enfant se sécurise. Et à ce moment-là, il est disponible pour tenter l'aventure intellectuelle. Et ces pays d'Europe du Nord ont une stratégie de l'apprentissage opposée aux pays asiatiques. Dans les pays d'Europe du Nord, on ralentit les enfants. Donc on attend qu'ils prennent confiance en eux. Et au contraire, dans les pays asiatiques, on surstimule les enfants. À 15 ans, aux évaluations PISA, c'est-à-dire les évaluations, les notes scolaires comparées entre des pays différents, les pays d'Europe du Nord et les pays asiatiques sont médailles d'or. Ils obtiennent des résultats stupéfiants. Sauf que les pays asiatiques obtiennent des résultats merveilleux à un prix humain exorbitant, dépression, suicide, isolement, c'est-à-dire que effectivement une minorité de ces enfants font des performances très impressionnantes, alors que dans les pays d'Europe du Nord, ils font les mêmes performances, mais 1% d'illettrés, diminution des suicides de 40% après 10 ans d'installation des réformes, diminution de la psychopathie, des troubles psychiques, c'est-à-dire qu'ils obtiennent les mêmes résultats en ralentissant les enfants. Donc il y a des stratégies d'apprentissage totalement différentes et la différence se fait sur la sécurisation.
Mais ralentir l'enseignement, n'est-ce pas aussi courir le risque que les enfants s'ennuient parce que sur un échantillon non représentatif d'enfants que j'ai autour de moi, le mot « je m'ennuie » revient très souvent. Qu'est-ce qui signifie, Boris Cyrulnik ?
Alors, dans notre culture d'école en France, les enfants s'ennuient. Mais en Allemagne, c'est pas loin, ils s'ennuient pas.
Qu'est-ce qu'ils veulent dire, les enfants, lorsqu'ils disent qu'ils s'ennuient ?
Ben, c'est-à-dire, en France, ils sont immobiles physiquement. Or, l'éveil du cerveau, c'est l'action physique, c'est l'émotion. Or, on est trop contraints à l'immobilité physique et les enfants en souffrent, les garçons plus que les filles. Et c'est pour ça qu'en France, il y a beaucoup d'hyperkinésie, c'est-à-dire des petits garçons plus que des filles qui ne tiennent pas en place, qui grimpent au mur et qui ne peuvent rien apprendre tellement ils sont agités et qui foutent en l'air l'ambiance d'une classe. Et les autres s'ennuient. Parce que c'est le ronron, c'est le programme à réaliser, c'est très engourdissant. Alors que, par exemple, en Allemagne, les enfants s'ennuient pas. Ils vont à leur rythme, c'est pas la même stratégie que les pays d'Europe du Nord, mais c'est une stratégie de même famille. Et les enfants éprouvent le plaisir d'apprendre une chanson, d'apprendre un conte mimé, de dessiner, et petit à petit, il se familiarise à l'école, s'ennuie pas, alors que c'est vrai qu'en France, on s'ennuie beaucoup à l'école.
Mais précisément parce que on a une conception, alors peut-être celle-ci est-elle erronée, Boris Cyrulnik, mais on considère que l'enseignement se doit de ne pas être laxiste, qu'il faut apprendre très tôt aux enfants à se tenir sage, à être assis correctement, etc. On a tort?
Oui, on a tort, parce que les pays où les enfants éprouvent le plaisir d'aller à l'école, il y a une très grande décontraction qui n'est pas du tout un laxisme. Tu dois apprendre, mais si tu apprends pas aujourd'hui, ben, tu apprendras demain. Et on voit que les enfants passent leur temps à jouer et que si on les faisait l'évaluation à 10 ans, ils seraient en retard. Si on fait l'évaluation à 15 ans, ils sont médaille d'or. Donc, parce que la plasticité du cerveau, la plasticité de l'intelligence sont tellement grands que ce qui n'est pas acquis à 5 ans sera acquis à 8 ans.
Plasticité du cerveau, justement, dans vos recherches et dans les différentes études qui ont été menées, Boris Cyrulnik, vous qui êtes neuropsychiatre, qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui sur le développement du cerveau et quels sont les déterminismes génétiques là-dedans ?
Alors, ils existent, mais ils sont pas très déterminants. C'est-à-dire que maintenant, on sait que l'épigenèse, c'est-à-dire le façonnement même d'une bandelette ADN, d'une bandelette génétique, s'exprime de manière étonnamment différente selon la structure du milieu. Donc, s'il y a des auditeurs qui résonnent encore avec les termes d'inné et d'acquis, pour eux, l'émission va être un mauvais moment. Parce que c'est un cul-de-sac conceptuel. Ces raisonnements-là ne veulent plus rien dire. Une bandelette, quelques lettres de l'alphabet, peuvent écrire 1000 romans différents selon la structure du milieu. Inné, acquis, zéro. Aucun sens. Mais en revanche, construction constante sous l'effet des pressions du milieu. Sauf que c'est nous qui avons la responsabilité d'organiser le milieu qui sculpte les développements cérébraux de nos enfants. Et là, on a un degré de liberté, donc on a un degré de responsabilité. C'est à nous d'organiser le milieu qui organise le développement cérébral des enfants.
Mais alors, vous dites que l'inné et l'acquis n'ont pas de sens, Boris Cyrulnik, mais dans le même temps, on n'arrête pas de parler d'épigénétique. En ce moment, peut-être d'ailleurs que vous pourriez définir ce terme et nous dire ce qu'il nous fait découvrir en matière de développement de l'enfant.
Alors, c'est un vieux vieux épigenèse. C'est un vieux concept. Genèse, quelque chose qui se développe, construit régulièrement à partir des gènes, de la génétique, de la genèse, l'ontogenèse, la construction, et l'épigenèse, c'est-à-dire que ce développement-là peut prendre 1000 directions différentes selon la structure du milieu. L'exemple classique, c'est, on prend les abeilles. Une abeille reine meurt, toute la fourmilière choisit une autre abeille, change les comportements, la nourriture de cette abeille, qui a le même programme génétique que toutes les ouvrières, et qui pourtant va devenir une abeille grosse, féconde, l'abeille reine. C'est le même programme génétique qui va donner une reine, parce que les fourmis ont modifié l'environnement d'une abeille comme les autres, d'une abeille ouvrière. Donc ça, c'est l'exemple qui permet de comprendre. Alors, chez les êtres humains, c'est la même chose, sauf que nous, en plus, on se développe comme des êtres humains jusqu'au moment où on arrive à la parole, qui est le monde de l'artifice, artifice de l'outil et artifice du verbe qui caractérise la condition humaine. Mais on n'y arrive jamais le jour de la naissance. Il faut 20 mois à peu près pour qu'un enfant commence à parler et 30 mois pour qu'il parle suffisamment pour entrer à l'école. Donc c'est-à-dire que c'est une construction constante sous l'effet des pressions du milieu.
Et ce milieu, est-ce qu'il peut façonner sur plusieurs générations, Boris Cyrulnik, puisqu'on a l'impression que c'est ce que veut dire l'épigénétique?
Alors, ça transmet. Là, on voit l'exemple classique, c'est que il y a eu les famines à Saint-Pétersbourg, il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale en 1942, il y a eu des famines en Irlande, la famine de la pomme de terre, dans les conflits entre les Anglais et les Irlandais, et les parents se sont adaptés. Les parents ne sont pas morts, mais pour ne pas mourir, ils ont dû s'adapter à ce contexte de famine. Donc ils ont changé leur métabolisme pour ne pas mourir. Et quand ils ont mis au monde des enfants, les enfants étaient adaptés au malheur des parents. Et ils sont devenus obèses. Parce que le milieu avait changé, il y avait de la nourriture, sauf que leur métabolisme était adapté à un milieu de famine. Donc effectivement, quelque chose se transmet à travers les générations, mais la réparation aussi se transmet à travers les générations. C'est-à-dire qu'un trauma, c'est pas le trauma qui se transmet, c'est l'adaptation biologique et psychologique au trauma qui transmet quelque chose aux enfants. Mais la réparation est-elle très facile, puisque, comme on le proposait tout à l'heure, il suffit de modifier le milieu pour que la transmission du trauma s'arrête.
Boris Cyrulnik, vous êtes neuropsychiatre, vous publiez « Préparer les petits à la maternelle », c'est un ouvrage collectif aux éditions Odile Jacob. On se retrouve dans quelques instants, vous serez rejoint par un éditeur, ancien ingénieur à l'Institut National de Recherche Pédagogique, Philippe Champy, il s'exprimera sur les programmes, les manuels scolaires et le poids trop grand, dit-il, des neurosciences sur l'enseignement et sur l'univers de l'école aujourd'hui. Il est 8h sur France Culture. Et Frédéric Saïs vient de parler de prudence dans les réformes, de prudence au gouvernement. Mais justement, il y a un domaine où, semble-t-il, ce gouvernement n'a pas été prudent ou en tout cas attentif, c'est en matière d'école, puisque si j'en juge par la une de vos quotidiens ce matin, il y a une révolution ou bien un grand chamboulement. C'est par exemple le titre de La Croix au lycée, la suppression des filières de la voie générale bouleverse les emplois du temps, les contenus, la hiérarchie entre les disciplines. Bref, on a l'impression qu'une fois de plus, on a affaire à un bouleversement des programmes et de l'école. Pour en parler, je suis en compagnie du neuropsychiatre Boris Cyrulnik qui publie « Préparer les petits à la maternelle ». C'est aux éditions Odile Jacob et nous recevons Philippe Champy. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier « Vers une nouvelle guerre scolaire, quand les technocrates et les neurosciences mettent la main sur l'éducation nationale ». C'est publié aux éditions La Découverte. Cette modification des programmes, on a l'impression, Philippe Champy, qu'elle est continuelle.
Effectivement, depuis une vingtaine d'années, en fait, on assiste à une forme d'un effet de balancier qui, en fait, suit les alternances gouvernementales et dont le rythme est de plus en plus accéléré. Je pense que le quinquennat, par exemple, a joué un rôle. Donc, l'évolution des institutions de la Ve République, les modifications que ça entraîne au niveau des partis politiques et de la sphère politique a une influence directe en fait sur cet effet de balancier, de sorte que à la fois les professeurs au primaire, au secondaire, dans tous les niveaux d'enseignement, et les parents sont un peu perdus, puisque ce qui était valable un jour ne l'est plus le lendemain, que les expérimentations tournent court très souvent, qu'il n'y a pas de bilan, etc. Donc en fait, là, on assiste à un climat extrêmement anxiogène.
Je vous confirme effectivement que les parents sont perdus. Philippe Champy, est-ce que ça veut dire qu'il y a des alternances avec des réformes de droite, des réformes de gauche? Est-ce que vous qui avez une longue habitude, éditeur pendant 25 ans d'ouvrages scolaires, est-ce que vous êtes capable de percevoir des tendances, comme on dit, en matière de réformes scolaires?
Il y a des tendances sans doute, mais c'est plus compliqué. C'est-à-dire que il n'y a pas nécessairement un rapport entre les débats entre spécialistes, que ce soit au niveau des sciences cognitives où les neurosciences ont leur rôle évidemment, que ce soit au niveau des différentes didactiques, des différentes chercheurs qui s'intéressent à partir de plusieurs points de vue de sciences sociales ou de sciences humaines sur la manière d'enseigner, sur il faut pas oublier les historiens aussi, les philosophes, les économistes, etc. Donc il y a beaucoup de débats entre spécialistes qui ont plus ou moins d'impact sur en fait en termes d'expertise sur les politiques et il y a des inflexions évidemment, mais moi ce que je remarque davantage en regardant les choses de très haut, c'est que c'est un poids de plus en plus fort de ce que j'appelle les technocrates, c'est-à-dire des décideurs de très haut niveau très liés aux politiques et au milieu dirigeant, mais qui n'ont pas une approche en fait pédagogique des choses et une très faible connaissance des réalités pédagogiques.
Philippe Champy, il y a par exemple une querelle qui est très franco-française, c'est la querelle sur les méthodes de lecture.
Tout à fait. C'est une querelle qui est incessante, alors qu'entre les spécialistes, je pense, de ces questions, il y a beaucoup moins de dissensus qu'il n'y paraît. Et donc, c'est une forme de querelle qui est réalimentée par des oppositions politiques, en fait, à l'extérieur, en quelque sorte, ou en surplomb des vrais problèmes que les professionnels de l'enseignement, les enseignants, évoque en fait.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que méthode syllabique ou méthode globale, en fait, le clivage n'est pas aussi important que ça? Qu'est-ce que vous en pensez?
Tout à fait. C'est une vieille querelle qui remonte au siècle dernier en fait, et qui a plus une implication politique, en fait. En fait, le problème, c'est de savoir si on va culpabiliser, pour moi, de mon point de vue, c'est est-ce qu'on culpabilise les professeurs en les accusant, les professeurs, notamment de l'école primaire, en les accusant d'utiliser de mauvaises méthodes, comme si, au fond, ils étaient responsables des mauvais résultats ultérieurs dans le système, notamment à PISA, pour les élèves les plus faibles, en tout
PISA,
cas.
PISA, il faut rappeler ce
PISA,
qu'est
PISA. C'est donc une évaluation internationale des pays de l'OCDE, donc c'est loin d'être tous les pays du monde, et qui intervient à la fin du collège, en fait, quand les enfants ont 15 ans.
Boris Cyrulnik, qu'est-ce que vous en pensez de ces querelles de méthode, des changements de programme?
Peut-être qu'il y a différents moyens d'accéder à la connaissance scolaire. Il y a la connaissance de laboratoire et la connaissance de terrain. Et on a ce même phénomène en biologie. J'habite à La Seyne, où il y a des biologistes qui font des travaux passionnants sur la biologie des poissons, et ils arrivent à des conclusions très différentes des pêcheurs qui ont une autre connaissance des poissons. Et je pense qu'on peut appliquer ce raisonnement-là à l'école. Parce que les professeurs des écoles, ou les professeurs tout court, ont une expérience de terrain, qu'on appelle peut-être le PIF, et qui est un mode de connaissance très proche de la clinique. C'est-à-dire qu'il y a des professeurs expérimentés qui savent comment sécuriser un enfant, comment le dynamiser, et c'est parfois totalement dissocié des connaissances de laboratoire. Pour ma part, je pense que les deux sont nécessaires. Il n'y a probablement pas assez d'échanges entre les praticiens et les chercheurs de laboratoire. Ça fait des savoirs opposés, comme vous l'avez dit, ces savoirs opposés sont récupérés pour en faire une force politique. Et dans ce cas-là, on ne peut plus trouver la solution, parce que tous les raisonnements qu'on tient sont des raisonnements politiques et non plus des raisonnements adaptés à l'enfant.
Ce qui veut dire, Philippe Champy, qu'on a affaire à des réformes, avec des programmes qui sont parachutés du haut, selon vous, par des gens qui, finalement, n'ont pas forcément l'intérêt de l'enfant en tête ?
Évidemment, tout ministre de l'Éducation nationale va exprimer un intérêt pour l'enfant. Ça fait partie du discours et de la communication. Et on a
remettre l'élève au cœur de la classe. C'est généralement comme ça.
On a aujourd'hui un ministre qui est effectivement extrêmement communicant. Mais au fond, il faut regarder derrière les paroles, il faut regarder les décisions. Il faut regarder ce qui se passe réellement dans l'institution. Donc on assiste par exemple à deux phénomènes qui sont évidents. D'une part, une hypercentralisation d'un certain nombre d'organismes publics, d'institutions, par exemple, qui étaient comme le CNESCO, qui évaluait la politique scolaire, le ministre actuel reprend la main sur tous ces éléments, fusionne les inspections, a beaucoup plus de pouvoir qu'auparavant. D'une part, donc il y a tous un effet de recentralisation et qui se traduit aussi par une forme d'instrumentalisation, de mon point de vue du moins, des neurosciences et de certains courants de neurosciences, puisqu'il a créé un conseil scientifique de l'éducation nationale qui est censé en fait donner le la sur l'ensemble des recommandations pédagogiques. Et là, c'est une innovation qui, à mon sens, traduit une forme d'alliance, disons, que j'appelle techno plus neuro, qui est dangereuse parce qu'elle a tendance à nier ce que Boris Cyrulnik disait tout à l'heure, à savoir le savoir expérientiel du terrain.
Mais oui, parce que finalement, dans le texte que vous donnez pour ce livre collectif, Boris Cyrulnik, Préparer les petits à la maternelle, vous dites, malgré votre expérience de neuropsychiatre, vous dites que finalement, l'expérience, le savoir-faire, bref, que ce que les professeurs ont comme savoir est peut-être supérieur à un certain nombre d'expériences de laboratoire.
C'est la différence qu'il y a entre l'objet de laboratoire qui ne sort pas toujours du laboratoire, qui n'est vivant que dans un laboratoire, et l'artisanat. Et l'artisanat, c'est sur le terrain. Maintenant, dans la commission de Hahn dont vous venez de parler, il y a beaucoup de philosophes, il y a beaucoup de sociologues, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas... Il y a très peu de neurologues dans cette commission, il y en a 4. C'est-à-dire que je pense que la neurologie peut en effet être instrumentalisée comme toute découverte scientifique. Toute, même la pénicilline a été instrumentalisée. Quand elle a fait disparaître la syphilis en 5 semaines, on a donné de la pénicilline à tout le monde et on a provoqué des résistances. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul progrès réel sans effet secondaire. Donc je pense que quand on veut aller trop vite... ce qui est notre cas parce qu'on vit dans une culture du sprint, et c'est pas toujours faux parce que nos enfants se développent très vite et nous on met des années pour arriver à proposer une conclusion, et pendant ce temps les enfants, eux, ils arrivent au bac, ils arrivent au moment où ils vont choisir un métier. Donc ce qui est lent pour nous est très rapide pour eux. Mais je pense qu'il faut des démarches scientifiques nécessaires et il faut les associer à la validation par les cliniciens.
Qu'est-ce que vous leur reprochez aux neurosciences, Philippe Champy ?
En fait, je leur reproche plutôt d'essayer de transférer une vision biomédicale des questions éducatives. Au fond, je leur reproche un certain nombre de biais d'ordre épistémologique ou philosophique. Un biais naturaliste, quand on lit partout...
Un biais, ça veut dire qu'ils ont une vision un peu déformée.
Oui, restreinte, restrictive. Ils focalisent sur un point, par exemple, quand on dit « le cerveau apprend ». Moi, je dis non, ce sont les êtres humains qui apprennent à leur cerveau à apprendre. C'est beaucoup plus complexe. Il y a un côté pas uniquement biologique ou neurobiologique. Non, et je pense que Boris Cyrulnik sera tout à fait d'accord avec moi. Et il y a un autre biais qui est un biais que j'appellerais scientiste. C'est-à-dire l'idée qu'il y a enseigner est une science. C'est quand même ce qu'affirme le président du conseil scientifique de l'éducation nationale. Enseigner est une science, et donc les professeurs sont sommés quelque part de ce neuro formé pour appliquer les consignes de la science de laboratoire. Science qui provient essentiellement d'études sur des enfants, suivis à travers l'IRM fonctionnel, c'est tout un domaine.
Autrement dit, des méthodes d'exploration.
D'exploration individuelle en laboratoire qui sont extrêmement éloignées de ce qui se passe dans les classes où les enfants ne sont pas isolés, seuls, et où il y a de multiples interactions, sans parler de l'interaction avec le milieu familial, la culture globale de la société, etc., etc. Et ça, pour moi, ce sont deux biais très restrictifs, en fait, qui sont vraiment à interroger.
Boris Cyrulnik.
Alors, non, je pense que ce que montre l'imagerie neurologique, c'est que le cerveau nouveau, celui qui est en train de naître aujourd'hui, ne se met à travailler que dans la relation. Et que, quand j'étais étudiant en médecine, on nous apprenait que le cerveau était dans sa boîte crânienne, coupé des relations. Et la neuroimagerie montre, au contraire, que le cerveau est activé par l'émotion et par la relation. C'est-à-dire qu'on voit en neuroimagerie que si on sécurise un enfant, tous les circuits limbiques, c'est-à-dire un anneau qui est à la face interne et profonde des deux hémisphères, qui est le socle neurologique des émotions et de la mémoire, si l'enfant est sécurisé par son prof ou par son moniteur de sport ou par un prof de musique, dès que l'enfant est sécurisé, ce système limbique des émotions et de la mémoire s'active et l'enfant apprend. Donc ce qu'apporte le laboratoire, c'est que la relation, au contraire, est bien plus importante que ce qu'on nous apprenait en neurologie il y a une génération.
Philippe Champy, vous êtes également très méfiant et très critique à l'égard de certaines méthodes, je mets ça entre guillemets, présentées comme étant des méthodes très performantes. Alors par exemple, la méthode Singapour, qui serait une méthode miracle pour apprendre les maths, qu'en pensez-vous ?
Alors là, c'est plutôt un étonnement de ma part. Quand on regarde ce qu'est cette méthode de Singapour, finalement, c'est une méthode qu'on pourrait dire, dans les débats, on pourrait la qualifier de pédagogiste quasiment.
Pédagogiste.
Oui, c'est-à-dire, c'est pas du tout une méthode récente qui serait le produit de nouvelles découvertes en neurosciences ou en neuro quelque chose. C'est vraiment une méthode c'est pas une méthode, c'est un ensemble de méthodes, un ensemble de manuels scolaires et de ressources pédagogiques variées publiées par des éditeurs privés concurrents à Singapour, mais qui reflète un programme élaboré par le ministère de l'Éducation à Singapour durant une vingtaine d'années. C'est-à-dire, ils ont recherché à quelles sont les différentes sources d'inspiration et les différentes pratiques pédagogiques qui existent dans le monde et qui permettent de mieux enseigner les maths.
Donc ça, a priori, c'est plutôt une bonne chose.
Oui, c'est très bien. La question est que ça n'a rien à voir avec les neurosciences, et ça n'a rien à voir, donc, avec ce... C'est une méthode parmi d'autres, en fait.
Les méthodes, qu'en pensez-vous, Boris Cyrulnik ?
Alors, il y a deux dangers. Le premier danger, c'est de ne pas avoir de méthode, parce que dans ce cas-là, on part dans tous les sens. Et le deuxième danger, c'est d'avoir une méthode.
Ça nous va bien.
C'est-à-dire qu'on évolue vers la sclérose. Donc on est contraint à l'évolution, donc on est contraint au changement. Et c'est vrai que les changements rapides de l'école bousculent un peu de gens, des professeurs et les enfants et les familles, et les rendent probablement anxieux. Mais la neuroimagerie, les découvertes des neurosciences actuelles montrent qu'il y a des quartiers où on apprend difficilement et d'autres quartiers où on apprend beaucoup plus facilement. C'est pas la qualité cérébrale qui est différente. Les enfants ont un même potentiel cérébral où qu'ils naissent. Mais l'environnement dans certains quartiers est sécurisant et stimulant, alors que l'environnement dans d'autres quartiers n'est pas sécurisant, et c'est probablement l'importance de la culture, même pour développer les apprentissages abstraits. Et on voit par exemple que un enfant qui naît de parents non diplômés a 17% de chances de devenir diplômé et d'avoir accès au métier que donnent aujourd'hui les diplômes. Alors qu'un enfant qui naît de parents diplômés a 75% de chances d'avoir un diplôme. Le déterminisme, il est parental, c'est-à-dire qu'il est social. Et il est transmis à travers les générations, d'où l'importance de faire des réformes culturelles pour que le cerveau des enfants dans ces quartiers freinés, inhibés, se développe mieux. Et, effectivement, les neurosciences peuvent participer à la lutte contre l'inégalité sociale. Parce que un enfant qui rentre à l'école à 3 ans en maternelle, s'il est développé dans une famille sécurisante, aura 2 ou 3 fois plus de mots qu'un enfant qui naît dans un quartier en difficulté et surtout dans un quartier en précarité sociale. C'est l'amélioration des lois sociales qui va améliorer le fonctionnement du cerveau. Donc les neurosciences, au contraire, encouragent la société.
Philippe Champy.
Moi, je pense que les neurosciences n'ont rien à voir dans ces constats, en fait. C'est la sociologie de l'école qui a déjà, depuis très très longtemps, attiré l'attention sur ces disparités familiales, sociales, de contexte, urbain, etc. Donc, ce ne sont pas les neurosciences qui, elles peuvent peut-être permettre d'expliquer quel est l'impact cognitif. Et encore là, on parle de sciences cognitives. On n'a plus rien à voir avec les neurosciences proprement dit, la neurobiologie. C'est beaucoup plus large. Là aussi, c'est une tendance un peu que j'appelle impériale des neurosciences à vouloir absolument mettre la main sur l'ensemble des découvertes, y compris celles de la sociologie de l'éducation ou d'autres de la philosophie de l'éducation, et de tout intégrer dans le fonctionnement du cerveau. Pour moi, c'est hyper réductionniste, et je pense que c'est pas de nature à favoriser un pluralisme et une mobilisation de l'ensemble des chercheurs concernés par les questions éducatives et de mieux comprendre en fait ce qui se passe dans notre système éducatif et de mobiliser les professeurs. Je pense que c'est contre-productif de trop centrer sur ce cerveau qui serait une sorte de personnage prométhéen de l'avenir.
Boris Cyrulnik, à chaque fois que je vous entends insister sur le fait qu'il faut sécuriser les enfants, et à chaque fois que j'entends le terme de résilience dont vous êtes un peu le père en France, je songe à votre enfance de petit enfant de 5 ans arrêté par la Gestapo, et je me demande quel est le lien entre cet homme que je vois là, qui paraît extrêmement bon, paisible, et le destin absolument épouvantable que vous avez eu enfant. Comment faites-vous le lien entre les études que vous avez faites, l'homme que vous êtes aussi, et cette enfance épouvantable?
C'était pas une enfance épouvantable, c'est une enfance de la guerre, comme des millions d'autres enfants ont connu et connaissent encore aujourd'hui. Il faut pas oublier qu'actuellement, il y a des dizaines de millions d'enfants orphelins ou d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Moi, j'avais pas le droit d'aller à l'école parce que les Juifs auraient été arrêtés quand ils allaient à l'école sous leur vrai nom. Donc, ça veut dire que moi, j'ai été très retardé, puisque je savais pas lire ni écrire à l'âge de 10-11 ans. Aujourd'hui, je serais peut-être orienté vers une école de rattrapage scolaire pour débiles profonds. Mais dès l'instant où j'ai pu rencontrer quelqu'un qui m'a sécurisé, et c'est pas, je dis « je » parce que vous m'avez posé la question, mais
oui,
il y a des études populationnelles qui montrent que c'est le cas de pratiquement tous les enfants. Dès l'instant où les enfants trouvent un milieu sécurisant, ils peuvent rattraper leur retard en quelques mois ou en quelques années. Donc ce qui est grave, c'est le pouvoir de stéréotypie. J'ai trouvé la solution. Alors je pense quand même que le cerveau moderne n'est pas du tout ce que vous venez de dire. Le cerveau moderne, c'est justement, il est façonné par le milieu et il est intégratif. Il intègre des tas de données de disciplines différentes. Et actuellement, les recherches sont toutes des domaines pluridisciplinaires. Il y a 40 ans, on nous critiquait quand on voulait quitter notre domaine, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour aller dans le domaine de l'autre, de la sociologie. Or, actuellement, il y a même des sociologues qui se mettent aux neurosciences. Ehrenberg a fait un excellent bilan de comment les neurosciences modifient la prise en charge. La prise en charge relationnelle. Le cerveau est la conséquence des relations. Ça, c'est le cerveau nouveau. Alors qu'avant, on pensait que le cerveau, il était inné ou acquis. Ce que vous disiez tout à l'heure. Or, il est malléable, il est plastique. On a toujours, même chez les gens âgés, on a toujours une possibilité d'agir sur, pour stimuler, réveiller quelqu'un qui démarre un processus d'Alzheimer. Alors, bien sûr, à l'école, on est loin de l'Alzheimer, pas tellement. Parce que on sait que quand un enfant a été bon à l'école dans les petites années, il donnera une population de gens âgés où il y a beaucoup moins d'Alzheimer. Donc ces déterminismes et ces raisonnements-là, on les tient que parce qu'on intègre des disciplines différentes où la neurologie n'a que un mot à tenir, n'a pas tout le discours.
Ce que vient de décrire Boris Cyrulnik, pour moi, c'est vraiment le vieux concept de la pédagogie et de la philosophie pédagogique qu'on appelle l'éducabilité. C'est-à-dire qu'on pense, mais ça fait 3 siècles, 4 siècles que cette pensée existe, bien avant les neurosciences, que tout individu dans un milieu favorable, sécurisant, bien organisé, intelligent, peut apprendre, quelles que soient ses difficultés, quel que soit son âge. Donc là encore, remettre le cerveau comme une sorte de dieu qui expliquerait tout ça, pour moi, c'est réductionniste et une petite tendance scientiste. Alors, et c'est comme si les neurosciences redécouvraient, tels des novices, redécouvraient le monde en ignorant en fait les savoirs précédents qui sont incarnés dans les pratiques professionnelles des professeurs, dans toutes sortes de pratiques des professionnels de l'éducation, de la petite enfance à l'université.
Mais au-delà, effectivement, de ces sciences, vous insistez, Boris Cyrulnik, dans votre ouvrage « Préparer les petits à la maternelle », sur le fait qu'il y a un jour un professeur avec lequel se fait un attachement.
Oui, alors l'attachement, il n'y a pas de développement sans attachement, tout simplement parce que même avec un prof, même sans attachement, le cerveau s'éteint. Et on le photographie, on le voit, il y a une sorte de sidération cérébrale qui fonctionne plus. Comment apprendre quand le cerveau s'éteint? De plus, pendant des générations, on nous apprenait qu'il fallait lutter contre le bilinguisme, il fallait apprendre une langue. Parce que, effectivement, on constate qu'il y a une période sensible où tout enfant, quelle que soit sa culture, peut apprendre une langue en 10 mois. Performance intellectuelle qu'on ne pourra plus jamais refaire de sa vie. Le déterminisme de cet apprentissage, il est biologique. C'est-à-dire qu'entre le 20e et le 30e mois, il y a un pic de synthèse d'acétylcholine qui est une molécule qui facilite la mémoire. Or, maintenant, les neurosciences montrent que lorsque un enfant est bilingue, son monde s'élargit. Et que le contraire de ce que disaient les praticiens il y a quelques années, et que, au contraire, le cerveau fonctionne mieux pour un enfant bilingue, et ça, c'est un avantage qu'il garde toute sa vie, même sur le plan philosophique.
Boris Cyrulnik, Préparer les petits à la maternelle aux éditions Odile Jacob. Philippe Champy, Vers une nouvelle guerre scolaire quand les technocrates et les neurosciences mettent la main sur l'éducation nationale, et c'est publié aux éditions La Découverte. Ouais, entre 20 et 30 mois, c'est foutu pour nous. Hervé Gardette, bonjour. Mais il y aura une transition quand même dans quelques instants.